Vous écoutez RCJ et comme chaque jeudi, vous avez rendez-vous avec la semaine des rédactions. Le principe est simple, faire le tour de l'actualité avec les moments forts des différentes radios juives partenaires à Marseille, Jérusalem et Paris. On parlera avec vous, Sandrine Seban, de la polémique autour de l'autorisation du burkini dans les piscines municipales de Grenoble.
Bonjour Margot. Bonjour. Effectivement, polémique qui revient. C'est un peu un serpent de mer, si on permettait l'expression, ce burkini. Mais pourquoi est-ce que Éric Piolle a voulu relancer ce débat maintenant, alors que en 2018-2019, il l'avait refusé. Je vous donnerai les chiffres exacts. Peut-être un petit rapport avec la stratégie de Mélenchon qui a payé, a priori, pour les présidentielles, mais on va en reparler.
Avec vous, Emmanuel Adaï, il sera question du pèlerinage sur le Mont Méron. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous. Oui, on se rappelle tous malheureusement ce drame qui a eu lieu l'année dernière, il y a un an exactement, à Méron, cette bousculade qui a provoqué la mort de 45 personnes, des images terribles. J'étais moi-même sur le terrain. Et cette année, eh bien, le pèlerinage à Méron a pu avoir lieu avec des restrictions très sévères, mais a pu avoir lieu dans la joie, dans la sérénité, avec un hommage à ces 45 victimes.
Et puis pour finir, on évoquera l'alia des Marseillais avec vous, Isabelle Piras, bonjour.
Bonjour à tous. Alors, vous avez tout savoir hein, sur les destinations phares, la préparation du départ. Les Marseillais partent en Israël, on l'évoquera dans quelques instants.
Emmanuel va les accueillir, bien sûr, c'est une boucle.
Absolument, je suis à l'aéroport.
Et bien voilà pour le programme. Et on commence donc avec vous, Sandrine Seban, et la polémique, on l'a dit, autour de l'autorisation du burkini dans les piscines municipales à Grenoble.
Effectivement, on y est revenu cette semaine, comme toute la presse, avec notamment Laetitia Avia, députée de Paris, que vous entendrez dans un instant. C'était lundi soir, le vote du conseil municipal de Grenoble, qui a donc autorisé le port du burkini dans les piscines de la ville. Une décision, on le sait, plus que portée, plus que voulue par Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble. Mais avant qu'on écoute Laetitia Avia, j'ai cherché un petit peu quelles étaient les origines finalement de ce débat sur le burkini à Grenoble. D'abord, il faut savoir que le burkini a été créé en Australie en 2005. Nous sommes en 2022. La question qu'on pourrait se poser, c'est donc comment se baignaient les femmes pratiquantes musulmanes avant 2005? Comment elles se baignaient dans les pays musulmans? Comment elles se baignent par exemple au Maroc, alors que si vous allez sur la côte marocaine, la très jolie côte de El Jadida, eh bien c'est interdit. Donc dans un pays musulman, le burkini est interdit dans la plupart des piscines, des hôtels au Maroc. Je pourrais vous prendre plein d'exemples comme ça, effectivement, dans des pays musulmans où le burkini n'est pas autorisé. Mais en fait, ça a démarré toute cette affaire du burkini à Grenoble. En 2018, 312 grenobloises musulmanes vont signer une pétition demandant à la municipalité de Grenoble d'autoriser l'accès des femmes en maillot de type burkini. Elles vont écrire beaucoup, et Éric Piolle, elles vont lui écrire pendant 8 mois, et pendant 8 mois, Éric Piolle ne va pas répondre à ses courriers. Cette femme musulmane vont donc décider en mai 2019, donc il y a 3 ans, de désobéir au règlement de la piscine et de se baigner en burkini. Le 21 mai, le maire de Grenoble, toujours le même, hein, Éric Piolle, il n'a pas changé, refuse encore une fois, il dit non, c'est pas autorisé. Les membres de l'association vont réitérer leur désobéissance, elles vont se rebaigner le 23 juin, enfin bon, on pourrait continuer comme ça longtemps. Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Éric Piolle se prend ça comme le combat le plus important de sa ville et qu'il faut absolument que les femmes, on ne sait pas combien ça représente d'ailleurs de femmes, puissent se baigner en burkini, maillot de bain couvrant entièrement le corps, vous le savez, et maillot de bain islamiste, pour ne pas le nommer. Qu'est-ce qui fait cela? Eh bien, c'est peut-être effectivement la stratégie électorale de Jean-Luc Mélenchon, que certains se disent maintenant prêt à suivre, puisque c'était un sondage qui est paru dans La Croix et IFOP. Jean-Luc Mélenchon a recueilli 69% des voix des musulmans aux dernières élections présidentielles. Donc clairement, la stratégie d'Éric Piolle, on l'a compris, c'est de flatter les indigénistes, c'est de flatter les extrémistes, c'est de flatter les plus bas instincts, on pourrait dire, pour une stratégie purement électorale. Et ça, c'est évidemment extrêmement dangereux. Je vous laisse écouter Laetitia Avia, qui, comme beaucoup, évidemment, d'hommes et de femmes, surtout politiques, s'est exprimé sur la question, et c'était sur RCJ.
Je crois que le préfet s'est déjà prononcé sur le sujet et Gérald Darmanin également indiquant qu'il y aurait un recours contre cette décision. Moi, je ne peux que regretter cette décision qui a été prise en conseil municipal de Grenoble. Je crois que ces débats ont eu lieu, que ces débats étaient tranchés et que là, on arrive dans de la pure provocation en réalité. Et c'est malheureux parce que ça ne fait de bien à personne.
C'est la provocation ou du clientélisme?
Mais oui, mais c'est pareil, et ça ne fait du bien à personne. Je crois que nos concitoyens de confession musulmane ont été suffisamment l'objet de débats dans cette campagne présidentielle, et que ce clientélisme qui vient aussi instrumentaliser une partie de la population n'est pas bon pour notre pays.
Voilà, c'était Laetitia Avia. Évidemment, ce clientélisme n'est pas bon. Et faire aussi, comme Éric Piolle le fait, mettre sur le même plan en disant « mais les femmes peuvent aussi se baigner seins nus dans les piscines », mettre cela sur le même plan que le burkini, un maillot de bain islamique, c'est extrêmement dangereux, mais c'est très bien ce qu'il dit et c'est très bien ce qu'il veut faire pour les prochaines législatives.
Emmanuel Ada, vous souhaitez réagir ?
Alors oui, parce qu'en Israël, on a un problème un petit peu similaire. Enfin, ce n'est pas un problème chez nous, justement, on a trouvé la solution. Les femmes religieuses juives qui souhaitent se couvrir entièrement pour aller à la plage, elles peuvent avoir un maillot qui s'appelle un maillot tzniout, où elles sont couvertes effectivement de la tête aux pieds avec une longue robe, un tights, etc. Et les femmes musulmanes, en tout cas celles que je vois sur les plages de Tel Aviv, de Yafo, etc., se baignent toutes habillées dans la mer. Maintenant, il y a une solution qu'Israël propose et qui pourrait être bien pour la France, qui pourrait peut-être être un compromis, c'est avoir des plages et des piscines avec des horaires séparés. Tout simplement, c'est-à-dire qu'en Israël, il y a des plages spécifiques aux religieux, avec des heures pour les hommes et des heures pour les femmes, où les gens qui ne sont pas religieux ne vont pas. Et puis, dans les piscines, pareil, il y a des horaires pour les uns et pour les autres. Donc, on ne se mélange pas. C'est vrai que c'est un compromis parce qu'on n'a pas trop le choix. Mais est-ce que c'est possible en France ?
À mon avis, non. Mais là, ce n'est que mon avis personnel. C'est absolument pas souhaitable. Mettre des horaires séparés. Puis après, on fait quoi ? On met des horaires séparés pour les blonds, les bruns, les roux, les jeunes, les gros. Il y a aussi toute une...
Oui, c'est vrai.
Voilà. Donc, Israël, j'ai envie de dire, ça part. Et puis, la laïcité... en France, c'est pas ça. Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a d'ailleurs dit, il a coupé les subventions à la mairie de Grenoble. Il a dit, c'est une rupture avec la laïcité. Et il a bien raison. La laïcité en France n'est pas ça. C'est un combat qui devient de plus en plus difficile. Et effectivement, faire comme en Israël, ça me semble pas adapté, en tout cas, et pas dans le respect de ce qu'est la laïcité en France.
En plus, c'est pas le même état d'esprit. En Israël, c'est un mode de vie. Il n'y a pas de provocation particulièrement par rapport à ça. Alors qu'en France, on sent la provocation vraiment.
Clairement, et c'est absolument pas la majorité de nos compatriotes musulmans qui demandent cela. Comme à chaque fois, c'est des associations qui savent très bien comment faire pour manipuler, mettre le débat sur la table et avoir certains politiques qui réagissent exactement comme ils ont envie qu'ils réagissent.
Isabelle Piras, vous voulez réagir également ?
Alors, je vais rebondir sur vos propos, Sandrine, parce que oui, il y a une parole de piscine municipale. Donc, c'est un service qui est proposé par l'État. Donc, l'État en France. Est laïque, la République française est laïque, donc ça peut remettre après en question la laïcité tout simplement dans les municipalités. On sait que les fonctionnaires ne doivent pas montrer de signes religieux, ne peuvent pas porter par exemple la croix, ils ne peuvent pas mettre de kippa. Donc ça remet un peu en question la laïcité dans les établissements, les institutions qui représentent l'État.
C'est clair. Alors après, je sais qu'il y a des piscines ou des centres aquatiques privés qui l'autorisent, mais voilà, c'est privé.
Autre sujet à présent, on poursuit avec vous Emmanuel Ada et le pèlerinage sur le mont Méron.
Oui, alors comme on le disait tout à l'heure, donc ce pèlerinage a lieu chaque année, ça se passe en Galilée, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu ces dernières années en Israël un enthousiasme incroyable pour ce type de pèlerinage, qui était à l'époque, moi quand je suis arrivée en Israël, ça restait très modeste, intimiste, etc. On allait, on faisait une petite séouda, on mangeait un petit bout de gâteau et de pain et on faisait des vœux sur la tombe du grand saint. Aujourd'hui, c'est des mouvements de foule absolument incroyables parce que 80 000 personnes arrivent chaque année à Méron. Et puis aussi, un point sociologique qui est très intéressant à relever, et je pense que ça, on pourra en parler avec Rudy Saada qui se trouve aujourd'hui
À la Griba,
à la
exactement.
Griba, un autre pèlerinage, un autre type de pèlerinage, donc à Djerba, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai a toujours été un saint très 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 aimé des Séfarades et particulièrement des Tunisiens. Et on a entendu dans les reportages faits sur le pèlerinage à la Griba, les gens chantaient dans l'avion cette fameuse chanson Rabbi Bar Yochai, etc. Et aujourd'hui, on voit que c'est plutôt le mouvement orthodoxe ashkénaze qui s'est approprié en Israël ce saint auquel ils n'ont jamais fait référence. En plus, Rabbi Shimon Bar Yochai est un grand sage de la Kabbale. Hein. C'est pas du tout la Kabbale n'est pas vraiment la tasse de thé des orthodoxes en Israël. Et donc on voit un changement de population. C'est plus les petites familles marocaines et tunisiennes qui venaient comme avant faire leur petit repas sur le mausolée. C'est des grands mouvements de foule. C'est des hommes en chapeau noir. Il y a très peu de femmes. Et voilà. Alors ça s'est très bien passé heureusement. Il y a eu un hommage qui a été rendu aux victimes de l'année dernière avec un feu géant qui a été allumé. Parce que le symbole de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le feu de la Torah, le feu sacré. Et puis, les 45 noms des victimes ont été nommés hein, pour les rappeler un à un pour tous ceux qui sont partis ce soir-là. C'est un moment très difficile pour la police israélienne. 8000 policiers ont été réquisitionnés, les routes bloquées, c'est des centaines et des centaines d'autobus qui arrivaient sur le site, vous imaginez l'organisation, les parkings, etc. Bref, c'est toute une région qui est mobilisée pendant quelques jours, puisque ça se passe 2 jours avant et puis 2 jours après. Et voilà, donc je pensais que c'était important d'en parler parce que pour beaucoup de nos auditeurs, Rabbi Shimon Bar Yochai est un saint pour lequel on allume des bougies très régulièrement à l'occasion des fêtes et puis surtout à l'occasion de sa Hiloula.
Isabelle, c'est toujours très, très gai, effectivement. Et voilà, et on a pu entendre le reportage de Rudy ce matin dans le journal 8h et puis là, à midi.
Alors, nous avons le rabbin de la Grande Synagogue de Marseille hein, qui était présent hier au Mont Méron. Il nous a envoyé des vidéos hein, pour nos réseaux sociaux, du coup, pour faire partager ça aux auditeurs marseillais qui n'ont pas fait encore leur alia. Et c'est vrai que quand...
Comment elle a réussi à faire la liaison, elle est très, très forte, Isabelle.
Elle est forte, elle est forte.
Ouais. C'est un métier, les enfants.
C'est vrai que quand j'ai regardé les vidéos ce matin, j'ai été frappée par la présence, en effet, en nombre des forces de police. Il nous a fait voilà, tout un panorama où on voyait cette foule qui sautait, voilà, cette convivialité, ce moment de joie et de communion. Et on voyait que c'était très, très encadré. Et forcément, on pense à ce qui s'est passé l'année dernière. Et le Rav Saba était présent l'année dernière pour évoquer hein, ce drame au Mont Méron.
Alors, on reste avec vous, Isabelle Piras, et on va finir justement en parlant de l'Alia des Marseillais.
Oui, car les salons de l'Alia, que vous connaissez bien, reviennent en présentiel. Hein, depuis pandémie Covid. Alors avant, c'était en Zoom, moi quand même personnel. Il faut savoir que le nombre d'alias en 2021 était presque record au niveau national et au niveau aussi de Marseille. Alors pour ce premier semestre 2022, ça stagne un peu. Plusieurs facteurs, hein, la vague d'attentats en Israël, la plus meurtrière depuis 2006, la guerre en Ukraine, un contexte géopolitique assez difficile. Et le coût de la vie.
La vie chère, c'est ce que j'allais vous dire.
Je propose qu'on écoute Estelle Doucan, les responsables de l'agence Vive à Marseille et pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
On est sur une année 2022 qui est moins importante, on va dire, que 2021 au niveau du chiffre, mais qui reste tout à fait stable quand même, avec plus de réflexion et plus de temps quand même pris pour pouvoir s'installer en Israël, vu la conjoncture justement par rapport à l'Ukraine, par rapport à la pandémie, par rapport à tout ce qui s'est passé. On n'a pas fini encore avec tout ce qui s'est passé, mais je pense que c'est un peu plus réfléchi et un peu plus posé. Il y a toujours des destinations phares, ça reste les mêmes, ça reste les 4 villes phares comme Tel Aviv, Ashdod, Netanya. Beaucoup de Marseillais vont aussi à Hadera. Après, ça dépend la tranche d'âge aussi. On a la tranche d'âge plutôt la retraite, ceux qui vont dans les villes comme Netanya, des villes très francophones, ou Ashdod. Et puis, on a des familles où les jeunes qui partent un peu plus vers Tel Aviv. On explique aux personnes que la vie a terriblement augmenté et qu'il faut effectivement s'éloigner de ces villes-là et aller en périphérie, qu'il faut s'installer un peu plus loin pour pouvoir vivre mieux et avoir une qualité de vie qui reste quand même proche de celle qu'on a dans le sud.
Donc on va peut-être ajouter hein, quand même en complément que Tel Aviv est devenue la ville la plus chère au monde. Hein. Ce n'est pas un palmarès très glorieux. Hein. Il y a donc des craintes économiques importantes. Hein. Et nous le savons, les Israéliens cumulent souvent plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Donc, c'est qu'avant de partir, ça fait quand même un peu peur.
Ben, on peut imaginer, Emmanuel, et effectivement, pour nous qui regardons simplement les vacances peut-être en Israël cet été, pour la première fois depuis 3 ans, pouvoir y aller sans toutes les restrictions sanitaires. Effectivement, quand on voit la différence par rapport à il y a quelques années, c'est complètement affolant. Et nous, ce ne sont que pour des vacances. Donc, on imagine la vie des Israéliens au quotidien. C'est compliqué, Emmanuel. Hein.
Ouais. On ne doit pas se mentir, on ne doit pas mentir aux nouveaux immigrants. La vie est devenue extrêmement chère en Israël. Maintenant, il y a d'autres villes que Tel Aviv, et moi, en tant que vraiment sioniste pure et dure, j'ai envie de dire à tout le monde, allez habiter en Galilée, allez habiter dans le nord, à Naharia, allez habiter dans le sud.
Allez habiter dans le Negev, comme le disait David Ben-Gurion.
Exactement, il y a des zones à peupler, il y a des zones à habiter, il y a des choses à faire, même au niveau professionnel, au niveau de l'emploi. Je sais qu'à Naharia, par exemple, pour vous donner un petit exemple, qui est une ville au fin fond du bout de la côte israélienne, eh bien, il y a un groupe de médecins français qui se sont installés, qui ont monté un centre médical. Ils ont loué des appartements avec vue sur la mer pour un prix vraiment modique. Ils sont très contents. Les habitants de la ville sont ravis d'avoir des médecins français sur place. Tout le monde est heureux, mais c'est vrai que ça ne nous vient pas à l'idée d'aller habiter à Naharia ou d'aller habiter dans le Negev. Mais oui, il faut aller peupler ces zones-là parce que ce sont des territoires qu'aujourd'hui Israël est peut-être en train de perdre. Parce que comme vous le savez, en Galilée, la population arabe est de plus en plus nombreuse. Dans le Negev, la population bédouine est de plus en plus nombreuse. Et il faut qu'il y ait des nouveaux immigrants, qu'ils soient ukrainiens, français, russes et américains, aillent meubler toute la terre d'Israël.
Merci beaucoup Emmanuel Ada et merci à vous aussi Sandrine Seban et Isabelle Piras pour cette semaine des rédactions. On vous retrouve bien évidemment la semaine prochaine à la même heure. Très bonne journée à vous.
Au revoir.
Au revoir.